Merci de votre fidélité à la Radio du Monde. Il est maintenant 12h30, temps universel, 13h30 à Libreville.
Et bonjour à toutes et à tous. Afrique midi, nous allons tout de suite commencer avec le journal et bientôt la fin du suspense au Gabon. Les résultats globaux provisoires de la présidentielle doivent être révélés dans les prochaines minutes. Nous prenons la direction de Libreville dès le début de ce journal. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo justifie son bras de fer contre la commission électorale. En meeting hier, l'ancien président a une nouvelle fois accusé la CEI d'être un féodé au pouvoir, toujours inéligible. Il promet que son PPACI ira jusqu'au bout de la présidentielle d'octobre. Indignation en Centrafrique face à la violence de certains militaires. Une vidéo de soldats infligeant des coups de fouet à des jeunes filles et des mères de famille provoque un tollé dans le pays. Partis politiques, associations, organisations des droits de l'homme réclament justice. L'état-major assure que des sanctions ont déjà été prises. Et puis il ne leur a fallu qu'un peu plus de deux heures pour faire le tour de Paris. Le Kenyan Bernard Biwott et l'Éthiopienne Bedapou Yirpa, vainqueurs du marathon dans la capitale française ce dimanche. Si le premier s'est facilement imposé, la seconde, elle, dut batailler jusqu'au bout. Les Gabonais ont donc voté hier pour choisir leur prochain président, le premier de la 5e République. Vous l'avez suivi sur RFI. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, sans incident majeur, contrairement au précédent. Place maintenant au résultat. Le ministère de l'Intérieur a convoqué la presse à 13h30, heure locale, 14h30, heure de Paris, c'est-à-dire maintenant. François Mazet, vous êtes sur place. L'annonce est donc imminente.
Oui, effectivement, on attend d'un instant à l'autre le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, dont les services ont été chargés d'organiser le scrutin. Cela avait fait polémique au moment du référendum de novembre, puisque certains s'interrogeaient sur l'indépendance de l'administration. En tout cas, le ministre devrait procéder à une annonce par province. Il y en a 9 dans le pays, plus la diaspora. On connaîtra ensuite les résultats provisoires globaux à l'échelle du Gabon. On saura alors si le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, obtient le score à la soviétique promis par ses partisans. Autre précision attendue, le chiffre définitif de la participation. Le ministère a donné un provisoire de 87,21% hier soir. Ce serait plus de 30% de plus qu'au référendum de la mi-novembre.
Et François, cette annonce intervient au lendemain d'un scrutin qui s'est donc globalement déroulé dans le calme.
Oui, les différentes missions d'observation nationale ont confirmé dans la soirée l'impression visuelle d'un scrutin globalement bien organisé, au contraire des élections précédentes, émaillées de contestations et de violences. Quelques incidents ont été rapportés, en particulier des difficultés d'accès à des bureaux de vote pour des observateurs rapidement résolus selon eux. Plusieurs candidats se sont plaints d'un manque d'accès également. Alain-Claude Bilibinzé a lui estimé que la présence dans les bureaux des cartes d'électeurs non distribuées était un facteur potentiel de fraude. En tout cas, les candidats mécontents auront à partir d'aujourd'hui 8 jours pour saisir la Cour constitutionnelle qui, elle, donnera les résultats définitifs.
François Mazet, envoyé spécial de RFI à Libreville, vous nous appelez dès que vous connaissez ces résultats globaux provisoires de la présidentielle. Une annonce qui est donc imminente. En Côte d'Ivoire, la présidentielle, ce sera le 25 octobre et à 6 mois du scrutin, Laurent Gbagbo battait hier le rappel de ses troupes. Grand meeting du président du PPACI à Dabou, à 50 kilomètres à l'ouest d'Abidjan. L'ex-chef d'État est revenu sur sa décision de suspendre la participation de sa formation à la commission électorale indépendante, une CEI inféodée au pouvoir. Ce sont ses mots, un choix défendu par les milliers de militants présents et qui ne serait qu'une première étape. RFI, correspondance de Benoît Almeras.
T-shirt bleu à la gloire de Laurent Gbagbo, Ange Michael a fait 300 km juste pour voir son candidat. La militante valide le retrait de la CEI.
Je pense que c'est un ras-le-bol. C'est un cul de cœur en même temps. Tous ceux qui ont deux plans au niveau de la CEI ne se fait pas entendre. Donc c'est un ras-le-bol.
Ses partisans exigent entre autres la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il en est radié depuis 2020 à la suite d'une condamnation par la justice. Certains en appellent au président Alassane Ouattara.
Il n'a qu'à mettre Laurent Gbagbo son nom là. Il n'a qu'à mettre. On va faire vote. C'est ce que je demande. Pour éviter tout. C'est tout.
Sur scène, face à la foule acquise à sa cause, Laurent Gbagbo félicite la délégation du PDCI qui a aussi quitté la CEI.
Je suis heureux que le PDCI nous a suivis. Quand tu te bats, tu as l'impression que tu es le seul à voir le mal que tu vois. Oh, eux aussi voyaient.
Et malgré son inéligibilité, l'ex-président promet que son parti ira jusqu'à la présidentielle.
Que nous allons aller aux élections et nous allons gagner. l'élection.
Laurent Gbagbo qui donne rendez-vous dans deux semaines à ses militants pour un nouveau mot d'ordre. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
L'actualité électorale toujours, cette fois en Tanzanie. Ce coup de tonnerre à 6 mois de la présidentielle. Le principal parti d'opposition, Chadema, vient d'être disqualifié des élections générales. En cause, selon la commission électorale, le refus de la formation de signer le code de bonne conduite électorale. Un refus assumé par Chadema qui exige d'abord des réformes. Cette exclusion pourrait en tout cas alimenter les critiques contre la présidente Samia Suluhu Hassan, accusé de dérive autoritaire. Au Sénégal, c'est l'arrestation d'un journaliste qui provoque l'inquiétude des défenseurs des droits humains, celle de Simon-Pierre Faye, rédacteur en chef de CNTV, de Zik FM, chaîne privée parmi les plus suivies du pays. Arrestation pour diffusion de fausses nouvelles. En cause, la reprise d'une information d'abord publiée par le média Afrique Confidentielle, faisant état d'une supposée convocation du premier ministre sénégalais Ousmane Sonko par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les représentants du secteur appellent à sa libération immédiate. Bakary Saïdi est le secrétaire général de la FACS, la Fédération des acteurs de la communication et de l'information du Sénégal.
Ça a été une grande surprise pour nous, hein, d'autant plus que Pierre Simon Faye fait partie d'un journaliste de référence au Sénégal. Non seulement il est connu pour son professionnalisme, il est connu pour sa probité morale, mais également c'est un journaliste très à cheval sur les règles d'éthique et de déontologie. Déjà, dans un premier temps, nous on pense qu'un simple communiqué des services de la communication de la primature aurait suffi pour nous mettre un terme à ce débat déjà. Parce qu'il n'est pas l'auteur de l'article en question. On lui a prêté le fait de reprendre un article déjà publié et diffusé par d'autres médias. On ne peut pas considérer ça comme un acte isolé. Pour nous, tout cela participe d'une stratégie de bras de fer engagée par l'État avec les acteurs des médias. Et ça doit cesser. Parce qu'on dit souvent que Charles Echaudé craint l'eau froide. Ça veut dire que tout ce qu'on a combattu avec le régime de Macky Sall, c'est comme si le monstre qu'on avait combattu est en train de revenir de plus belle avec plus de force sous de nouveaux habits. Donc il est grand temps de mettre un terme à ce bras de fer entre l'État et les acteurs des médias.
Des propos recueillis par Gwendal Lavina. Plus de peur que de mal après l'incendie du bâtiment de la présidence du Sierra Leone. Un brasier qui s'est déclaré dans le bâtiment situé dans la capitale Freetown et a été maîtrisé dans la soirée hier. Si aucune victime n'est à déplorer, les flammes ont détruit des documents et des meubles sur près de 2 étages. Le président Julius Maada Bio était en déplacement en Turquie. RFI, il est 13h37 à Bangui, la Centrafrique, où une vidéo relance ces derniers jours le débat sur les comportements de certains éléments des forces armées. On y voit des militaires administrer des coups de fouet à un groupe de personnes, dont des jeunes filles et des mères de famille. L'acte s'est produit sur le site minier de Zawa, à proximité de la ville de Yaloké, à plus de 200 km au nord de la capitale. De nombreux partis politiques, la société civile et les organisations des droits de l'homme ont condamné ces pratiques et réclament désormais justice. Dans un communiqué publié mercredi, l'état-major des armées explique de son côté que les faits datent de plus d'un an et rassure, les soldats impliqués ont déjà été sanctionnés. À Bangui, les précisions de Rolf Steve Domialeux.
Dans cette vidéo qui circule depuis lundi sur les réseaux sociaux, on peut voir près d'une vingtaine de jeunes filles et un homme allongé à plat ventre devant une case en tôle à l'intérieur du chantier minier. Des militaires centrafricains ont treillé, armés de kalachnikov et de chicotes, donnent des coups de fouet à ces civils, parmi lesquels des femmes allaitantes et leur bébé qui pleure au sol. Cette vidéo a suscité l'indignation de nombreux Centrafricains comme Quentin Guando, acteur de la société civile.
C'est inadmissible dans un état de droit de voir ce genre de vidéos circuler venant des FACA qui ont pour mission première la protection de la population civile. Je lève ma voix aujourd'hui, qui est la voix de ces jeunes fouettés. Le peuple n'est pas d'accord.
L'état-major des armées a reconnu l'authenticité de la vidéo, mais précise toutefois que c'est un chantier dangereux, interdit au public. Lieutenant-colonel Franck Gonidé est chef du bureau presse de l'état-major.
En 2024, il y a eu des effondrements dans lesquels 17 personnes ont perdu leur vie. Les autorités administratives de la sous-préfecture de Yaloké ont instruit des militaires en mission commandée dans la zone d'interdire l'accès à la population environnante. Face à ces actes de violence physique, l'état-major des armées a déjà procédé à la relève des éléments auteurs de ces actes et il les a traduits devant un conseil de discipline.
La Ligue centrafricaine des droits de l'homme, qui a condamné ces pratiques, a annoncé l'ouverture d'une enquête avant d'intenter une action judiciaire contre les auteurs. Rolf Steve Domialeux, Bangui, RFI.
Eux sont soupçonnés d'avoir enlevé et séquestré un influenceur algérien réfugié en France. 3 hommes, dont un travaille au consulat d'Algérie, interpellés et mis en examen vendredi à Paris. Il s'en serait pris il y a plus d'un an à Amir Boukor, alias Amir DZ, un critique du régime algérien aux plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Bonjour Sarah Yasmine Ziani.
Bonjour.
Une semaine après le passage du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Alger et en plein effort d'apaisement entre les deux pays, ces interpellations provoquent l'indignation du gouvernement algérien.
Une situation inadmissible qui causera un grand dommage aux relations algéro-françaises, a déclaré hier soir le ministère algérien des Affaires étrangères. Il dénonce l'arrestation de son agent consulaire sur la voie publique et sans notification par le canal diplomatique. Un tournant judiciaire qui n'est pas le fruit du hasard, estime-t-il, comme une manière de torpiller le réchauffement des relations entre Paris et Alger. Pour l'avocat de l'influenceur Amir Boukor, ces nouvelles arrestations suggèrent une tentative d'intimidation de l'Algérie. Une potentielle ingérence étrangère, a réagi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui précise que le parquet national antiterroriste a été saisi sur l'affaire. Nouvelle escalade donc après la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et après la condamnation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, et qui intervient alors que Bruno Retailleau est attendu ce soir au Maroc.
Sarah Yasmine Ziani, tout autre chose. Maintenant à 12h40 en temps universel sur RFI. Il était attendu depuis des années au palais des congrès de Yaoundé. Il lui aura fallu 6 ans, 3 albums et une bonne dose de charme pour y arriver. Sissoul s'est enfin jeté dans la fosse au lion. Paris réussi hier pour le chanteur dans une salle de plus de 1000 places où les fans ont répondu présents pour applaudir cette star de la musique urbaine. Un public chauffé à blanc, un artiste en feu. Et Richard Onanena qui avait lui la meilleure place pour nous faire vivre ce concert.
Porté par les cris du public, Sissoul a enflammé la scène. Pour son premier grand concert, la voix Neo Soul Ewondo a revisité ses premiers titres comme Emma, Sur ma route ou encore Je tombe aussi, qui ont fait le bonheur de ses fans.
J'étais comme pris par un courant électrique qui me parcourait tout le corps. Je pense que c'est l'énergie des gens dans la salle. J'avais un public qui était venu pour écouter ma musique, qui était venu pour écouter un jeune Camerounais, qui était venu pour écouter de la musique camerounaise. C'est exceptionnel pour moi. Je pense que c'était inédit pour eux aussi. Donc ça s'est bien passé. C'était excellent.
Elles attendent ce moment depuis ses premiers titres. Elles se présentent comme les premières fans. Florent Bargard et Inès sont payées 2 places VIP de 25 000 pour être proches de celui qui chante l'amour.
J'étais prête à tout pour être là aujourd'hui et je suis très heureuse.
J'écoute ces sons depuis que je suis toute petite. Du coup, ça me fait plaisir de venir le soutenir.
Pour Bonas Fotu, animateur radio et créateur de contenu, Sissoul a franchi une étape avec ce premier vrai concert, mais le plus dur reste à venir.
Il entre dans une nouvelle dimension parce que c'est la première fois qu'il remplit une salle de plus de 1500 places au Cameroun. Ça va lui permettre de prétendre à des espaces beaucoup plus grands.
Sur scène, Sissoul était accompagné par des artistes avec lesquels il a souvent collaboré, comme ténor ou encore locaux. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Allez, puis leur scène à eux s'étendait des Champs-Élysées à l'Arc de Triomphe en passant par le Louvre et la cathédrale de Notre-Dame. Les coureurs de la 48e édition du Marathon de Paris qui s'était lancé ce matin dans la capitale française. Bonjour, Saliou Diouf.
Bonjour.
Notre expert sport. Si pour certains amateurs, la course s'est terminée il y a peu de temps, les pros sont eux arrivés depuis longtemps et c'est un Kenyan et une Éthiopienne qui se sont imposés.
Et ils ont bravé les 42,195 km avant tout le monde. Je dirais même qu'ils les ont littéralement dominés. Honneur à celui qui a débarqué tel un guépard sur la ligne d'arrivée, Bernard Biwott, 22 ans. Il a battu son record personnel en 2h, 5 minutes et 25 centièmes. Il avait déjà été étincelant lors du dernier marathon de Francfort il y a quelques mois. C'est au kilomètre 33 que le Kenyan a fait la différence avec une accélération fatale. Il devance sur la ligne le Djiboutien Ibrahim Hassan à 47 secondes. Et c'est son compatriote Sila Kipto qui clôt le podium chez les hommes à 55 secondes. Côté femme, Bedatou Irpa, 26 ans, a devancé de 3 secondes une autre Éthiopienne, Deradida. Un succès en 2h, 20 secondes, 45 centièmes. Ça s'est pas joué à grand chose. Soulignons tout de même que c'est la deuxième victoire de Bedatou Irpa cette année après celle au marathon de Dubaï en janvier dernier. À la troisième place du podium, on retrouve la Kenyane Angela Tanui à 47 secondes de la première place. Et on va finir avec une petite statistique. Sachez que les 10 premiers au classement, que ce soit hommes ou femmes, viennent tous du même continent, l'Afrique.
Très impressionnant. Une pensée bien sûr également pour ces milliers d'amateurs qui risquent d'avoir des courbatures d'ici demain. Merci Salio Diouf, c'est vous qui venez clôturer ce journal. Il est midi 44 en temps universel.
Afrique Midi, Pierre Boudias.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h, toujours temps universel. Comme tous les dimanches, c'est la culture qui va nous accompagner avec les chemins de l'écriture dans un peu plus de 5 minutes. Alors que le Maroc est l'invité d'honneur du Salon du Livre de Paris, nous partons à la redécouverte de l'œuvre de l'écrivain Driss Shaibi. Mode et engagement au programme également, 100% création à la rencontre de la styliste gabonaise Olivia Menge qui lit passion de la couture à lutte contre le cancer, vous l'entendrez. RFI, il est 14h45 ici à Paris. Nous prenons tout de suite la direction du Burkina Faso.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche, c'est votre rendez-vous sur RFI pour découvrir une Afrique positive et mettre en valeur des initiatives gagnantes du continent. Une entreprise innovante, une idée qui mérite d'être relayée, un projet auquel nous pouvons donner un coup de pouce. Aujourd'hui, direction donc le Burkina Faso où deux jeunes entrepreneurs ont créé et commercialisé une boîte à outils électrique. Une boîte qui permet au foyer de s'équiper en électroménager et de bénéficier d'une énergie quasiment gratuite, celle de l'énergie solaire. Frédéric Gara.
En fait, le ménage, il passe de zéro à ça. À l'énergie, à un accès complet, c'est-à-dire avec l'électricité, la lumière et du multimédia.
Sur le stand Vivatech de Paris où il exposait en mai dernier, Abdelhadissa, le cofondateur d'Aliot System, ne manque pas d'enthousiasme pour présenter son invention, la Terrebox. Terrebox, littéralement la boîte solaire en langue Dioula.
C'est le produit le plus distribué depuis qu'on a commencé. Ça fait, on en a au moins 35 000 au Burkina. 35 000.
Vous avez vendu 35 000 Terrebox.
Oui, dans le milieu rural et en périphérie. Mais même dans le monde urbain, il y en a qui en prennent.
Une boîte grosse comme une armoire à pharmacie, branchée sur un panneau solaire, reliée à un équipement de base pour les familles burkinabées, celles qui vivent dans les zones les moins bien distribuées, en réseau électrique. Christophe Tougri, cofondateur et président d'Aliot System, le promoteur de la Terrebox.
Comment ça fonctionne? Terrebox, ça sort avec une box intelligente qui permet d'accumuler l'énergie et de distribuer sur plusieurs types d'utilisation. On a les lampes, on a la télé, on a le ventilateur et puis on a le système de recharge de téléphone. Et dans le profil d'utilisateur de la Sonabel, qui est la Société Nationale d'Électricité au Burkina, ça correspond à quelqu'un qui est branché sur un segment de 3 ampères. Le panneau, il est sur le toit, la box à l'intérieur. En fait, on fait le système de câblage pour les lampes. Donc il y en a 6 au salon, dans les chambres où la femme qui vend les cacahuètes dehors et pour les élèves, les enfants qui sont sur la terrasse de pouvoir aussi étudier. On a une torche et une radio qu'on donne pour permettre au chef de foyer d'être tranquille sur son fauteuil, d'écouter RFI et puis de regarder la télé aussi voilà, et de recharger son téléphone.
Je vois qu'il y a un interrupteur, c'est-à-dire que quand on ne se sert pas de la box, on peut éteindre et ça conserve l'énergie?
Ça conserve l'énergie. Alors en journée, il recharge les batteries et il permet de consommer. La nuit, c'est les batteries qui prennent le relais pour distribuer l'énergie au ménage.
Même si les composants sont fabriqués en Chine, l'assemblage s'effectue à Ouagadougou grâce aux 50 employés que compte l'entreprise depuis 2017. Les deux cofondateurs ont lancé l'aventure Aliot System en revenant d'expatriation au Faso et en misant toutes leurs économies, 60 000 euros. Un projet un peu fou, mais sur lequel a aussi parié Orange. L'opérateur téléphonique s'est associé aux deux patrons burkinabés en permettant le prélèvement via Orange Monnaie des factures pour l'achat du kit Terrebox. Elisabeth Tchungi, directrice exécutive RSE au sein d'Orange.
Alors moi, je suis convaincue de deux choses. La première, effectivement, ces startups apportent des réponses à des besoins locaux. Mais je vais plus loin. Je pense aujourd'hui que l'Afrique est le premier continent de l'innovation dans le monde, dans le contexte que l'on connaît de transformation durable, indispensable des économies sur le volet environnemental, sur la manière dont on peut combler les inégalités sociales, et les deux sont liés. Et la créativité des startups africaines qui évoluent justement dans un contexte parfois complexe, l'approche d'une innovation au bénéfice de tous, je trouve que ce sont des startups qui ont des leçons à donner au monde entier. Donc je suis absolument convaincue que l'Afrique est le continent de l'innovation absolument pivot pour répondre aux grands enjeux de transformation de notre siècle.
L'un des enjeux du siècle, c'est aussi le transport propre. L'autre projet de Christophe Tougri et d'Abdallah Dissa est de développer une formule de commercialisation de scooters et de voitures avec des batteries électriques adaptées aux fortes chaleurs du Burkina Faso.
L'Afrique en marche.
Frédéric Gara, l'Afrique en marche et la Terrebox, une chronique que vous pouvez retrouver sur notre site RFI.fr et en podcast sur notre application Pure Radio. Vous êtes toujours à l'écoute d'Afrique Midi, nous sommes le dimanche 13 avril, à la une de l'actualité internationale. Volodymyr Zelensky appelle à faire pression sur Moscou pour arrêter la guerre. Le président ukrainien qui réagissait à une frappe russe, elle a fait 31 morts dans la ville ukrainienne de Soumy dans le nord-est du pays. Iran et États-Unis ne discuteront que du programme nucléaire iranien lors de leur pourparlers. Avertissement de Téhéran alors que les délégations américaines et iraniennes doivent se retrouver la semaine prochaine à Oman. Discussions qui continueront à être indirectes, confirme la République islamique. La France doit trouver 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour atteindre ses objectifs de réduction des déficits. C'est ce qu'annonce ce dimanche le ministre de l'économie. Éric Lombard évoque un effort considérable dans les mois à venir. On vote ce dimanche en Équateur, élection présidentielle dans ce pays d'Amérique du Sud, gangrénée par la violence des gangs de narcotrafic. Le sortant Daniel Noboa fait face à son opposant de gauche, Luisa González. Et puis 160 pays et régions réunis à Osaka à l'occasion de l'exposition universelle. Elle a ouvert ses portes aujourd'hui autour d'un anneau de 2 km de circonférence, la plus grande structure en bois du monde. Thème choisi cette année, la société du futur. C'est l'actualité littéraire du jour ici à Paris, le dernier jour du Salon du Livre dans la capitale française avec le Maroc en invité d'honneur pour cette édition 2025. Ça tombe bien puisque ce week-end, les chemins de l'écriture se mettent à l'heure marocaine avec Driss Chraïbi, le professeur Khalid Zekri enseigne la littérature à l'université Moulay Ismail de Meknès. Il répond aujourd'hui aux questions de RFI sur Driss Chraïbi, le romancier emblématique du royaume chérifien et sur son roman incandescent, Le Passé Simple, paru en 1950. Une œuvre qui fit décoller la fiction marocaine moderne, des propos recueillis par Tirtankar Chanda.
Lors de sa parution en 1954, le passé simple de Driss Chraïbi scandalisa ses lecteurs à cause de sa satire féroce de la société marocaine. Quel souvenir gardez-vous, vous, de votre première lecture de ce roman devenu aujourd'hui un classique ?
J'ai découvert Le Passé Simple à la fin du collège, mais je l'ai lu réellement au lycée. Moi, je me rappelle bien que ce texte m'avait ébloui parce que justement, il parlait de choses que ma génération vivait à quelques nuances près. Hein. Par exemple, cette révolte contre l'ordre établi, contre la société patriarcale, contre la pression de la tradition. Nous sentions qu'il y avait une pesanteur sociale qui était décrite sur le plan familial par Driss Chraïbi à travers son personnage Driss Ferdi et son rapport au père, à son père surtout. Enfin, c'était le cas de Driss Ferdi et de Driss Chraïbi par ricochet.
On a parlé de récit autobiographique, sans doute à cause de l'identité des prénoms entre l'auteur et son protagoniste. Les deux s'appellent Driss.
Il y a des bribes d'autobiographie, bien sûr, mais ce n'est pas vraiment une autobiographie. Ce roman contient des éléments de la biographie de l'auteur, puisque quand même, l'auteur était à l'école française. Et puis, toute cette pression que les jeunes de la génération de Chraïbi vivent dans l'école coranique, la difficulté de l'émergence de l'individu dans une société où il y a une surdétermination traditionnelle, telle qu'elle est décrite dans Le Passé Simple par Driss Chraïbi. Donc, cette opposition entre la possibilité d'émergence de l'individu et l'impossibilité justement de son émergence à cause de la pression de la tradition et de la pesanteur du patriarcat, eh bien, c'est quelque chose qu'on lit de manière très claire dans le texte. Ceci dit, le texte critique également la culture française.
Que raconte Le Passé Simple ?
Du point de vue historique, Le Passé Simple, c'est un tournant par la thématique même, qui est très osée. C'est un jeune marocain qui va s'insurger contre la pesanteur de la tradition. Il appelle son père le seigneur, qui est une qualification féodale oppressive. Sa mère est écrasée, d'ailleurs elle finira par se suicider dans le roman. Dries Ferdi va entrer dans une thématique traditionnelle du point de vue psychanalytique, c'est la mort du père, ou du moins le souhait de la mort du père, avec toute la symbolique du père, porteur de tradition, porteur de filiation avec le passé, etc. Et aussi, élément d'oppression par rapport à l'épanouissement de la subjectivité de l'individu, qu'est justement ce Dries Ferdi.
Ce roman frappe aussi par son inventivité linguistique et formelle, à mille lieues des classiques de la littérature française que lisaient les petits Marocains dans les années 1950.
Le passé simple, et c'est un tournant, aussi bien au niveau des thèmes abordés qu'au niveau de la forme, puisque c'est une écriture qui n'est pas linéaire, qui n'est pas, disons, docile dans son rapport à la langue française. Au niveau du style, il y a la déconstruction de certaines structures syntaxiques, il y a également l'usage d'un vocabulaire d'une très grande violence, un tournant dans la littérature. D'ailleurs, un journaliste à l'époque, il a dit « on y entre comme on entre dans les maisons de la vieille Médina ». On se cogne la tête à chaque coin. C'est-à-dire qu'en fait, on y entre difficilement. Ça veut dire que la langue dans laquelle ce texte est écrit produit un effet d'étrangeté chez le lecteur.
Le professeur Khalid Zekri, il était au micro de Tirthankar Chandai. Pour les chanceux qui peuvent encore se rendre au Grand Palais pour le Salon du Livre à Paris et veulent découvrir un peu plus sur la littérature marocaine, un hommage y est rendu cet après-midi à Mohamed Kahir Eddine, autre grand écrivain du siècle dernier. Allez, RFI, il est midi 55 en temps universel, mode, accessoire, décoration, style, design, ces mots-clés, vous les avez reconnus. Il est l'heure de retrouver 100% création avec Maria Afonso à la rencontre aujourd'hui d'Olivia Meng, designer de mode et entrepreneuse gabonaise. Elle a eu un parcours atypique qui l'a mené de la couture familiale à la création de sa marque. Maria Afonso l'a rencontrée lors de la dernière édition du Yas Fimo 228 où elle a présenté une collection intitulée Élégance résiliente. Cette collection aux teintes de blanc, noir, rose et orange symbolisent l'espoir, la force et la détermination dans la lutte contre le cancer, un combat qui tient à cœur à cette styliste.
Je suis vraiment à fond dans tout ce qui est mode. Ça prend vraiment une place importante parce que la création, ça passe avant tout.
Olivia Manguet, designer de mode et fondatrice de la marque Moa Création.
Moa, c'est mon nom et mes deux prénoms, donc Manguet, Olivia, Apolline. Et ça veut aussi dire modèle off africain.
Olivia Manguet est née à Libreville, au Gabon. Elle a exercé en entreprise dans le domaine des ressources humaines. Mais passionnée par la mode dès son enfance et le mannequinat à son adolescence, quand elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle choisit de vivre de sa passion, la mode. La créatrice gabonaise, installée à Brest, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France, a été influencée par sa mère, couturière. En autodidacte, Olivia Manguet explore la couture et développe ses compétences. Elle s'inspire des années 80 et propose l'union de l'élégance africaine et européenne. Gabon, Côte d'Ivoire, France, Sénégal ou Ghana, la créatrice gabonaise veut faire connaître son travail au plus grand nombre, mais c'est à Abidjan qu'elle a ouvert son atelier.
Je travaille beaucoup avec les artisans locaux, notamment en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup de bouche à oreille parce que c'est un peu compliqué de tomber sur des bons artisans. J'ai plutôt un bon réseau au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est pas mon pays, c'est vrai. Maintenant, je suis en train d'essayer de m'orienter un peu à l'étranger, notamment en Turquie. Là-bas aussi, je confectionne des tissus directement avec les designers et après, c'est expédié en Côte d'Ivoire en atelier et c'est fait sur place.
Olivia Manguet aspire à former de nouveaux talents en Afrique en maintenant des standards de qualité élevés et à faire évoluer l'industrie de la mode sur le continent.
Si tu acquiers quelque chose de bon, c'est mieux aussi de l'enseigner à d'autres personnes. C'est vrai que j'ai Moa Création, mais à la longue, avec les formations que je ferai, parce que je vais en faire d'autres, ce serait justement pour former ces jeunes-là en Afrique, pour qu'on puisse arriver à un niveau où on peut avoir des usines de fabrication comme en Turquie ou en Chine. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y en a presque pas. Faire un vêtement prêt à porter haut de gamme, ça demande une rigueur et définition différente qu'un vêtement prêt à porter que tu vas retrouver dans la moindre boutique du quartier. Cette culture-là, on ne l'a pas encore vraiment en Afrique. Et moi, mon objectif, ce sera à la longue de former ces personnes-là pour qu'on puisse aussi se retrouver un jour sur des tapis rouges à Paris ou ailleurs dans le monde.
Retrouvez l'univers d'Olivia Manguet sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
100% création avec Maria Afonso. Point final de cette édition d'Afrique Midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau point complet sur l'actualité internationale sur la Radio du Monde.
Société Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
conseils pour accompagner les parents qui vieillissent.
Mardi,
comment lutter contre le harcèlement et la haine, une émotion destructrice.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Comment monter dans le bus spatial au Sénégal ?
Autour de la question.
Pendant 37 jours, à travers des expositions, conférences et ateliers, des animateurs sillonnent 14 régions du pays pour montrer aux Sénégalais l'impact de l'exploration de l'espace sur le développement durable et leur vécu au quotidien.
Autour de la question avec Caroline Lachowski, demain à 14h10 TU sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI.fr.